Europe 1. Écoutez le monde changer. Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour, il chante comme on prie, comme on pleure, comme on rêve, Michel Jonas, dont la joie est toujours chargée de cette mélancolie que Victor Hugo désignait comme le bonheur d'être malheureux. L'album que l'on attendait depuis 8 ans paraît enfin, sous le titre un peu sibyllin d'une cartographie inspirante, la Méouge, le Rhône, la Durance. Il y est question de ciel, d'océan, de rivière, de lune, d'espace et d'amour, bien sûr. La tournée avec la Dream Team de Michel Jonas, ah bah faut bien le dire, les meilleurs musiciens de jazz en France, comme toujours d'ailleurs, démarre le 6 novembre, couvrira tout l'Hexagone pendant un an et passera par le Palais des Sports à Paris le 25 avril prochain.
Europe 1.
Bonjour Michel Jonas.
Bonjour.
Cher Michel, avec vos camarades Alain Souchon, Julien Clerc, Laurent Voulzy, Francis Cabrel, vous avez traversé 5 décennies, donc vos chansons voyagent depuis presque un demi-siècle. Or, le monde a changé, mais vous êtes toujours là en restant fidèle à vous-même. Vous expliquez comment que tout casse, tout lasse, sauf vous.
J'explique pas ça. Hein. Moi, j'explique pas ça. Ce que je peux expliquer, c'est que pour qu'une histoire d'amour dure le plus longtemps possible, eh bien, il faut être toujours aussi passionné qu'au début et se surprendre toujours. Moi, je me suis programmé pour ça au début de ma carrière. Je me suis dit là, il faut surtout pas que je tombe dans la routine et dans la lassitude, exactement comme dans une histoire d'amour de couple. Hein. Et donc, oui, moi j'ai ça avec la musique, c'est vrai. Une passion qui s'est jamais éteinte, et je crois que c'est ça la clé. Hein.
Alors ce nouvel album, ça fait effectivement 8 ans qu'on l'espérait. 8 ans pendant lesquels, bah, si on n'avait pas su que vous faisiez des tournées en permanence, on aurait pu imaginer que vous aviez oublié d'être chanteur, Michel Jonas, puisque à la télé, on ne vous voit plus beaucoup chanter. On vous voit, en revanche, souvent faire l'acteur. Pourquoi vous faites-vous si rare à la télé dans les émissions de variété ?
Ah, écoutez, je ne sais pas. Il n'y en a pas tellement, d'ailleurs. Hein. Il n'y en a pas tant que ça. Et puis, peut-être que ce n'est pas la partie de mon travail que je préfère. Ça, c'est vrai. Pour moi, mon travail, c'est d'être sur une scène. Voilà.
Donc, 8 ans, quand même, c'est long pour accoucher d'un album. Je ne sais pas, j'imagine que vous avez embrassé d'autres vies depuis 2011. Vous scrutiez d'autres horizons, vous aviez d'autres défis à relever.
Alors, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de concerts et du théâtre, mais l'explication, elle est simple. Pour écrire un album, il faut plusieurs conditions, dont 2 principalement, c'est-à-dire l'envie, le désir. Alors ça commençait à me titiller, c'est vrai, depuis 2-3 ans.
Ouais.
Ça commençait à me manquer parce que j'aime ce plaisir, ce bonheur d'écrire. Et puis, surtout, il faut que les circonstances soient favorables. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? C'est que l'énergie dont on a besoin pour faire de la scène est complètement différente que celle dont on a besoin pour écrire. Donc, moi, j'ai besoin d'une longue période tranquille. C'est-à-dire, je suis incapable d'écrire entre 2 concerts ou d'écrire les jours de relâche au théâtre, etc. Ça, je peux pas faire. Donc, la seule période où il y a eu comme ça un petit peu de calme, il y a eu quand même quelques concerts, mais plus calme qu'avant, c'était 2018, où là, j'ai commencé à écrire, effectivement, 2018. Ça s'est prolongé sur 2019, où bon, j'étais au théâtre avec le cas Edouard Einstein, à la Comédie des Champs-Élysées.
Oui.
Mais là, j'étais déjà dans la période de composition musicale, puisqu'on en avait déjà parler, vous vous rappelez, moi je fais mes textes.
Oui, toujours par les textes.
Exactement. Donc, les textes, c'est là où j'ai besoin vraiment d'être tranquille.
Donc, vous n'êtes pas du tout de ceux qui griffonnent un texte sur un coin de table dans un studio d'enregistrement comme Gainsbourg, par exemple.
Ah oui, bah, ça c'est balèze, parce qu'ils étaient beaux, ces textes. Hein. Je ne sais pas comment ils faisaient. Non, moi j'ai besoin de laisser venir à moi les mots, etc. Je suis lent là-dessus. Je peux me trimballer des textes sur des années et des années, hein, et les reprendre après, etc. Donc, mais alors que la musique, la composition musicale, c'est quelque chose de plus urgent, de plus physique et qui doit aller vite parce que sinon je galère. C'est-à-dire que si je mets mon texte devant moi et que je suis là à chercher, que je trouve pas, que je suis pas content, etc., je sais que je vais galérer. Donc ça, c'est quelque chose de physique et qui va vite.
Alors, Victor Hugo disait que la mélancolie, c'est le bonheur d'être triste. Mais c'est plus la mélancolie slave ou la mélancolie de la soul et du blues qui infuse votre inspiration, Michel Jonas?
Ça, c'est drôle. Vous savez que vous m'apprenez quelque chose. Je ne savais pas qu'il avait dit ça. Alors
elle est pas mal, la formule, n'est-ce pas?
Elle est bien, la formule. Et moi, ça fait des années, parce qu'on me dit souvent, mais vous avez quand même de la mélancolie dans vos chansons, vous avez quand même de la nostalgie, puis vous, on sent que vous êtes quelqu'un de joyeux, de déconneur.
Vous pourrez leur répondre maintenant, et bien c'est le bonheur d'être triste.
Et moi, je répondais par un proverbe hongrois qui dit, Silvor Vigodan Modior, qui dit, le hongrois, et moi je disais le tzigane, se réjouit en pleurant. Donc ça rejoint vraiment...
Voilà, on va se demander si Victor Hugo n'avait pas des origines hongroises. Alors justement, vous parlez de Hongrie, Michel Jonas. Vos grands-parents paternels étaient chanteurs d'opérette à Budapest. Votre grand-père maternel était cantor à la synagogue. Oui. Votre père jouait du violon et avait chanté dans des cabarets. Votre mère adorait la musique tzigane et chantait des chansons hongroises. Donc la musique, c'est aussi une question d'ADN.
Ben, c'est vrai que quand je regarde en arrière, je me dis qu'il n'y a pas de hasard. Quoi. Tout était à sa place et en plus au bon moment. Alors, ben, c'est vrai, oui, j'ai le premier contact que j'ai eu avec la musique, ça a été la musique tzigane qu'on écoutait systématiquement à la fin d'un repas chez mes grands-parents paternels que j'ai connus. Donc voilà, la musique tzigane avec les violons qui pleurent, avec tout ça, l'émotion de mes grands-parents en écoutant ça parce que ça leur rappelait leur pays, etc. Donc la force de la musique, c'est ça qui m'a... Ça m'a provoqué ça dans ma tête de môme. Je me suis dit que c'est bizarre cette chose-là. Parce que je voyais les visages de mes grands-parents changer et puis voilà, les yeux devenaient un peu humides, etc. Donc je voyais qu'il y avait quand même une force. Et puis, mes parents adoraient la chanson française. J'ai raconté ça souvent, que mon père m'a un jour amené voir Piaf sur scène. Vous savez qu'il n'y a plus beaucoup de gens qui ont vu Piaf sur scène. Ça commence à être rare. Hein,
ça commence à être rare.
Oui. Et donc, ils écoutaient tout le temps la chanson française. Et puis, oui, c'est vrai que mon père jouait du violon. Ma mère chantait tout le temps dans sa cuisine. C'est vrai ce que vous avez dit. Mon grand-père, qui a été une référence, mon grand-père maternel, que malheureusement, je n'ai pas connu, puisqu'il a été déporté avec sa femme et 4 de ses enfants, c'était une référence. C'est-à-dire, ma mère, quand elle venait m'écouter chanter sur scène, elle me disait tout le temps « Michel, tu chantes bien, mais pas encore aussi bien que ton grand-père », parce qu'elle me disait toujours que les gens venaient de très loin de Hongrie pour l'écouter chanter dans ce petit village qui s'appelle Beretyóújfalu, où il chantait, et paraît-il qu'à chaque fois, elle me disait « mais il avait une voix magnifique ».
Alors Michel Jonas, à Broadway, la variété américaine est née en fait des alliances entre le jazz de la musique noire des années 30 et la musique yiddish des émigrés juifs d'Europe centrale.
C'est vrai.
Comme votre grand-père. Vous, Michel Jonas, vous êtes un chanteur français d'origine hongroise qui a le groove des Américains. Alors, à cause de ce groove, je vous pose cette question. Vous auriez aimé être un chanteur de rhythm and blues plus peut-être qu'un chanteur de variété comme Ray Charles, votre idole?
Déjà, moi, je ne sais pas si je suis un chanteur de variété. Je pense qu'il y a plusieurs sources musicales.
Mais j'ai dit plus, parce que veut dire que ça infuse.
Oui, mais c'est dans...
Vous
c'est
avez
en moi.
Un groove jazzy.
Oui, mais c'est en moi, donc je peux m'en servir comme je peux me servir de la mélancolie, comme on me dit souvent des violons de tzigane, et comme je peux me servir de l'amour des mots que j'ai toujours eu et qui est si importante dans la chanson française traditionnelle. Et puis la force d'interprétation de Piaf, de Brel, etc. Tout ça m'a nourri, donc j'ai aucune frustration et je ne sais pas si je suis un chanteur de variété comme on dit. En tout cas, j'ai en moi effectivement de la musique tzigane, de la chanson française avec l'importance des textes, des émotions et des histoires qu'on raconte. Et puis effectivement, ce qui m'a donné envie, moi, un jour de faire de la musique, de commencer à chanter, de toucher un piano, c'est effectivement Ray Charles, c'est effectivement le blues et le rock'n'roll. Voilà, il y a eu souvent une petite méprise à mon sujet parce qu'on me parle de jazz très souvent. C'était pas du tout, moi je viens pas du tout du jazz. Je viens pas... Non, du tout.
On va agiter les souvenirs, secouer la mémoire. J'ai 1000 questions à vous poser, Michel Jonas. Alors, on fait une pause très courte et on se retrouve tout de suite.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, la suite sur Europe 1. Jusqu'à 16h, vous écoutez Isabelle Morizet et son invité, Michel Jonas.
Alors, Michel Jonas, d'abord, j'aimerais qu'on remonte à la genèse de tout. Naître à Drancy, quand on a une grande partie de sa famille maternelle qui est morte déportée, c'est tout de même un signe du sort qui est lourd à porter. Comment votre maman s'accommodait-elle de cette géographie funeste?
Vous savez, ma mère, elle s'est sentie accueillie par la France. Moi, je ne l'ai jamais entendu dire un mot de travers sur ce pays, sur notre pays, sur la France. Je l'ai entendu dire beaucoup de choses sur les Allemands et sur Hitler, qui lui avait pris quand même ses parents et quatre de ses frères. Mmh. Et pourtant, deux de ses frères, puisque ses parents étaient restés en Hongrie, ils étaient sept enfants, cinq sont venus en France, deux sont restés en Hongrie. Bon, vous savez, les Hongrois, ils ont dégusté pendant la guerre. Hein. Donc, mmh. ses parents et les deux petits ont été déportés de Hongrie. Mais les deux grands frères qui étaient en France, qui étaient venus pour faire des études, puisqu'il y avait le numerus clausus, c'était compliqué hein, pour les Juifs d'étudier en Hongrie, ont été embarqués et pris, parce que vous savez très bien que la police française faisait du zèle, mmh. hein, du temps de Pétain, etc. Et elle n'en a jamais voulu à la France. Or, la France a été quand même responsable aussi de la déportation de nombre de Juifs. Et moi, je l'ai jamais entendu dire, donc, par rapport à Drancy, évidemment. Mais non, c'est curieux, mais c'est comme ça. Elle était très reconnaissante à la France de l'avoir accueillie. Pourtant, ma mère a porté l'étoile jaune, etc. Mais oui, je ne l'ai jamais entendu dire du mal. Hein, c'est très curieux. Donc, moi, je n'ai pas vécu le fait de... Oui, bon, ben voilà, je suis né à Drancy. Non, ouais, c'était pas si douloureux que ça. Ce qui était douloureux, par contre, oui, c'est son histoire. Là, je le voyais, la douleur, je la connais, hein, la douleur de la perte des membres d'une famille.
Alors, vous n'avez pas reçu d'éducation religieuse,
non.
N'est-ce pas? Voilà, donc, votre famille ne vous emmenait pas à la synagogue.
Non.
En fait, les cœurs étaient trop broyés pour ça.
Je ne sais pas si c'est ça. Vous savez, je crois qu'on peut transmettre uniquement ce qu'on a reçu. Donc, je ne suis pas sûr que ma mère a reçu ça, ni mon père. Et bon, moi, j'ai la foi, hein, mais je crois qu'elle m'est venue comme ça, à moi, tout seul, parce que j'ai absolument pas été éduqué dans la tradition religieuse. Alors oui, c'est vrai que c'est possible que ce soit aussi le traumatisme de la guerre qui fait que... Moi, je me rappelle que des fois, quand ma mère m'entendait dans un interview ou à la télévision ou à la radio faire comprendre que j'étais juif, quand je rentrais et quand elle me voyait, elle m'a dit « Mais il ne faut pas dire ça. Mais pourquoi tu dis ça? Mais pourquoi tu dis que tu es juif ?» Mais vous voyez, c'est-à-dire que ce traumatisme a été très dur. C'est-à-dire qu'il faut mieux le cacher et de ne pas se faire remarquer, et etc. Donc, je ne comprenais pas pourquoi elle me disait ça. Mais je l'ai compris après.
Alors, votre père, Michel Jonas, avait pour habitude de ponctuer la vie par cette phrase toute simple « C'est pas grave ».
Oui.
En fait, plus rien, jamais, ne peut être grave pour un peuple qui a connu la Shoah, c'est ça?
Alors, c'est ma mère surtout qui a connu ça. Mon père n'a pas eu de membre de sa famille déporté. Mais c'est vrai que c'était sa phrase préférée. Et c'était pas grave. Il le disait comme ça. C'est pas grave. Je me rappelle encore, j'ai sa voix dans la tête. Et ma mère, oui, c'est-à-dire, vous savez, ça relativise. Hein, parce que qu'est-ce qu'il y a de pire que ça, de perdre des frères, de perdre ses parents? Elle est partie, elle avait 16 ans quand elle est partie, ma mère, de Hongrie. Elle a jamais revu ses parents. Elle les a jamais revus. Ses deux petits frères, elle les a jamais revus. Et elle avait le sourire. Et elle était de bonne humeur. Et elle avait une joie intérieure toujours. Et là, vous savez, ça relativise les petites contrariétés, les petits soucis qu'on peut se trimballer souvent dans nos vies.
Alors, vous n'alliez pas à la synagogue lorsque vous étiez enfant, mais ça ne vous empêchait pas de prier, justement.
Oui.
Qui avait-il dans vos prières, Michel Jonas?
Je raconte ça souvent, mais c'est assez drôle, c'est que la première prière dont je me souviens, c'était que je revenais de l'école, donc à Drancy, et j'ai prié pour qu'il y ait de la viande hachée et de la purée à midi, parce que j'allais manger chez moi.
C'était quand même très pragmatique.
Non,
hein,
c'était... Après, j'ai dû prier souvent, mais c'était la plus ancienne dont je me souviens. Et ce qui est curieux, c'est que ça a marché. Ceci dit,
vous aviez des accointances avec le ciel. Vous avez su très tôt que vous auriez un destin à part et que vous seriez célèbre?
Très tôt, non. Ce que j'ai su très tôt, ma conviction, c'était que la vie allait être belle, qu'on était sur Terre pour être heureux et que forcément, la vie allait m'offrir de belles surprises, des beaux cadeaux. Là, je vous le dis avec des mots d'adulte, mais je sais que c'était l'idée que j'avais dans ma tête d'enfant, sans mettre des mots comme ça sur cette idée-là, voyez.
Vous étiez confiant?
J'étais confiant, oui, tout à fait.
Alors, votre père, au début de sa vie, s'était rêvé chanteur, et c'est lui, effectivement, qui vous a entraîné un soir à l'Olympia à écouter la plus grande interprète française, qui, du haut de 1m47, hein, faut le rappeler, oui, Piaf mesurait 1m47. Et bien donc, elle hypnotisait chaque fois son auditoire, mais bon, Piaf, certes, ça a été le premier choc, mais
oui.
Ray Charles, lui, vous a inoculé la notion de plaisir, n'est-ce pas, au travers de la musique?
Ben, c'est-à-dire que, vous voyez, moi j'ai commencé donc ma vie musicale, ma carrière dans les années 60, qui a été une période extraordinaire pour commencer une carrière. Pourquoi ? Parce que ça a été une période transitoire, vraiment très importante, une transformation extraordinaire sur le plan artistique. On avait le respect et l'admiration pour nos aînés, Brel, Brassens, Ferré, Piaf, etc. Mais d'un seul coup arrive le rock'n'roll, la batterie, la basse, la guitare électrique, les trucs comme ça. On se dit, oh là, mais c'est ça. Et ça, c'est notre musique à nous. C'était ça, ma musique. Moi, qui étais ado à ce moment-là, hein, moi, je suis né en 47, j'étais ado. Et donc, Ray Charles synthétisait ça. Quand j'ai entendu sortir d'un jukebox la chanson What I Say, je me suis dit, oh là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est ça qui m'a donné envie, en fait. J'étais nourri par plusieurs formes de musique, oui, mais ce qui m'a vraiment décidé. Mais vous savez, à cette époque-là, il y avait des groupes de rock qui se créaient toutes les trois minutes, hein, dans tous les quartiers de Paris.
C'est ce que vous n'avez pas manqué de faire.
Et j'ai pas manqué de faire ça. Et donc, j'ai même appris la musique comme ça, en répétant avec des groupes de rock. Donc oui, je me suis dit, voilà, ça, moi je veux faire ça. Moi je veux faire du rock'n'roll.
Bon, alors, vous avez dit, moi je veux faire ça, et vous avez quand même pris très très tôt une décision incroyablement radicale. Parce que, Michel Jonas, se lever en plein milieu d'un cours de maths, l'année de vos 15 ans, prendre la porte et quitter pour toujours le lycée,
Oui, c'est vrai. Mais il n'y a jamais de hasard.
C'est costaud. Vous l'avez fait sur quel déclic ?
Dans un cours de maths où je ne comprenais plus rien. Et je me suis dit, mais ça ne sert à rien d'insister. Mais qu'est-ce que je fais là ? En plus, mes parents, je ne suis pas issu d'un milieu aisé. Il n'y avait pas beaucoup d'argent chez moi. On habitait au 10e étage d'un HLM qui existe toujours, qui est à la porte Brancion. Donc, on comptait les sous. Et mon père avait fait des efforts pour me payer un cours privé, une école privée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ? Mais ça ne sert à rien. Mais c'est plus, je ne comprends plus rien. Ça ne sera pas... Donc, je suis parti. Je suis parti au milieu d'un cours en disant c'est pas la peine. C'est comme
il
ça
est
que ça
parti,
s'est passé.
Michel Jonas, 15 ans, une vie à imaginer, à construire, à écrire. On fait une pause et puis on retrouve tout de suite Michel Jonas dont sort le nouvel album La Méouge, le Rhône, la Durance.
Europe 1. Il est 15h22, vous écoutez Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1 et la conversation entre Isabelle Morizet et Michel Jonas se poursuit jusqu'à 16h. On parle de son parcours de vie, de son métier, de ses souvenirs et de son acti.
On a mille choses à se dire avec Michel Jonas. Cet après-midi, mon invité, cher Michel, des pinceaux, des cartons, des toiles, des tubes de couleurs, de la térébenthine. C'est ce qui a peuplé votre premier univers quand vous avez claqué la porte du lycée l'année de vos 15 ans. Pourquoi avoir choisi la peinture avant la musique ?
Non, mais parce que je ne savais pas du tout ce que j'allais faire. J'ai quitté l'école. Ce que je savais, c'est que je voulais être libre. C'est que je ne voulais pas avoir de patron, de devoirs à faire et de choses comme ça. Donc, je me disais comme ça, instinctivement, être un artiste, ça doit être libre. Un artiste, c'est libre, c'est indépendant. Et, voilà. Et donc, je ne savais pas trop quoi faire. Et j'aimais les impressionnistes. J'adorais Van Gogh, j'adore toujours d'ailleurs Van Gogh, Vlaminck, Monet, Sisley, Manet, etc. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais peut-être faire ça. Et encore une fois, là, j'ai demandé un effort à mes parents. Ils m'ont acheté un petit peu de peinture à l'huile, des cartons, pas des toiles, parce que les toiles coûtaient plus cher que les cartons. Vous savez, on peut peindre sur des cartons.
Ouais.
Voilà. Et j'adorais cet état dans lequel j'étais quand je peignais. Je copiais, hein, les ciels tourmentés de Vlaminck, etc. Je copiais. Mais cet état qui est un état vraiment méditatif, on est complètement dans l'instant présent, comme sur scène d'ailleurs, on ne voit pas le temps passer. J'aimais beaucoup ça. Alors un jour, mon père m'a dit « Ah bon, c'est ça que tu veux faire comme métier ?» Ah mais alors il faut que tu le fasses sérieusement. Et il m'inscrit dans un cours de dessin. Il dit, il faut que tu apprennes à dessiner.
Et
voilà comment les choses s'enchaînent. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que tout est à sa place tout le temps au bon moment. Je prends un cours de dessin chez un mec voilà, qui peignait, qui était prof. Et on n'était que deux élèves. Et un jour il nous dit, vous voulez devenir artiste, mais quand on est artiste, il faut s'intéresser à toutes les formes d'expression, à toutes les formes d'art. Je veux que la semaine prochaine, vous veniez et vous allez apprendre une scène d'une pièce de Molière, c'était les Fourberies de Scapin, où il y a une femme et un homme. Donc cet homme, où j'étais parti pour prendre des cours de dessin,
soudain vous aiguille vers la comédie.
Vers le théâtre, vers la comédie. Ma sœur qui prenait des cours de dramatique dans une maison de jeunes à la porte de Vanves me dit « Ah bon, mais t'as qu'à venir tous les mardis soirs. » Et voilà comment les choses ont commencé. Et c'est pour ça que j'explique souvent qu'avant de faire de la musique, j'ai pris des cours d'art dramatique.
Vous savez, ce premier chapitre consacré à la peinture est clos finalement pour basculer ailleurs.
C'est
comme une chaîne, puisque tout est lié. Mais ce premier chapitre, il me fait penser en fait à Gainsbourg qui fut un peintre contrarié, lui, non satisfait de lui-même et qui a brûlé d'ailleurs ses toiles sans doute par excès d'amour propre parce qu'il n'était pas... Il n'était pas heureux de ce qu'il livrait et trop ambitieux par rapport à, voilà, au but qu'il s'était fixé.
Mais
il a commencé également par la peinture.
Mais je peux ajouter que j'ai une frustration par rapport à ça, parce que j'aimais beaucoup ça et que je me suis toujours dit, je vais le retrouver. Je ne l'ai pas vraiment retrouvé, mais j'avais une frustration parce que je n'étais pas bon en dessin. Mais j'adorais la peinture, l'odeur, les pinceaux, la térébenthine, les choses comme ça, j'adorais ça. Et je me suis toujours juré de retrouver ça un jour. Ce n'est pas dit que je ne le ferai pas.
Certainement. Alors, vous êtes donc cherché d'abord au travers de la peinture, puis il y a les cours de théâtre. Mais c'est finalement le piano, dont vous avez d'ailleurs appris à jouer seul, qui vous a connecté à la grande affaire de votre vie, la musique. Car dès 1965, à seulement 18 ans, vous devenez le pianiste d'un groupe de rock. Alors, certains restent pianistes toute leur vie. Vous, Michel Jonas, 3 ans plus tard, on vous découvre à la radio comme chanteur. Donc, sur scène, le chanteur, c'est le boss. C'est cette place que vous vouliez occuper?
Mais non, pas du tout. Ça s'est fait comme
ça.
En plus, j'étais pas un très bon pianiste. J'ai appris sur le tas comme ça. Pourquoi? Parce que j'étais parti en Hongrie. C'était la première fois que je mettais les pieds en Hongrie, quand même, avec Orlando, le frère de Dalida, qui chantait. Et j'étais parti comme pianiste avec Orlando. Et puis, un ami à moi, Alain Goldstein, qui avait un groupe de rock, me dit « Michel, quand tu reviens, ce serait bien que tu viennes dans notre groupe. Il n'y a pas de chanteur. » Ah bon? Oui, ben si tu pouvais faire le chanteur. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et j'ai donc commencé par chanter du rock'n'roll en anglais. Voilà, vous voyez, du Little Richard, et puis petit à petit, du rhythm and blues. Voilà, James Brown, Otis Redding, Wilson Pickett. Et on avait un groupe qui s'appelait le King Set.
Alors, il est arrivé, j'ai presque envie de dire en douceur le succès.
Oui.
74, n'est-ce pas? Premier vrai tube avec une chanson que vous interprétez toujours sur scène,
oui,
signée d'ailleurs par Jean-Claude Vanier. Vous n'étiez pas l'auteur du texte, mais vous l'êtes devenu très vite auteur, et on peut dire que les décennies 70 et 80 furent miraculeuses, parce que, bon, dites-moi, Super Nana, Les Vacances au bord de la mer, Je voulais te dire que je t'attends, Joueur de blues, Lucille, Les Wagonnets, Je t'aimais tellement fort que je t'aime encore, Minuit sonne, La boîte de jazz, Je veux pas que tu t'en ailles. J'ai réécouté cette chanson cette nuit, mais c'est absolument magistral. La fabuleuse histoire de Mr. Swing. Enfin bref, tout ça est infusé par la grâce. Alors, on ne la convoque pas, l'inspiration. C'est vraiment elle qui vous cueille presque malgré vous, malgré soi.
Alors en fait, c'est une image que j'ai très souvent employée, mais qui est concrète en moi. C'est-à-dire que je la considère comme une femme qui me rend visite et que je dois être prêt à l'accueillir. Et je me prépare à ça. Je me prépare, il faut que je sois propre, etc. Et je me prépare à ça. Ou bien je cherche un coin, ce que j'appelle mon coin d'inspiration. Ça peut être dans la nature, etc. C'est-à-dire que si elle ne vient pas, cette espèce d'histoire dont j'ai entendu parler, de l'angoisse de la page blanche, moi je n'ai pas ça, parce que si elle ne vient pas, elle a été empêchée. Mais faut jamais lui en vouloir, voilà, c'est ça mon idée. Et donc c'est ce rapport-là que j'ai avec l'inspiration, et c'est très très agréable. C'est vraiment ce moment où quelque chose arrive, une phrase, un mot, quelque chose. Ça c'est vraiment un moment que j'adore. C'est pour ça que j'aime cet état dans lequel je me mets pour écrire.
Et ça donne par exemple le nouvel album, La Méouge, Le Rhône, La Durance. On fait une pause, on retrouve tout de suite Michel Jonas.
Et Michel Jonas est l'invité d'Isabelle Morizet. Cet après-midi, vous écoutez Il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
A glissé dans toute bonne discothèque le nouvel album de Michel Jonas, La Méouge, Le Rhône, La Durance. Album d'ailleurs qui annonce une tournée qui démarre dans quelques jours, qui vraiment va vous faire aller dans toutes les grandes villes de l'Hexagone, et qui va s'arrêter le 25 avril prochain à Paris, au Palais des Sports, que vous allez embraser, cher Michel. Alors, on continue de dérouler le fil. Michel Jonas, depuis le succès en 85 de ce titre devenu légendaire, La Boîte de Jazz, un peu parti, un peu naze. Ce qui est formidable, c'est que quand on dit ça, tout le monde sait ce qui suit. Eh bien, le public, et on ne peut pas le blâmer, vous prend pour un jazzman égaré dans la chanson. Mais vous ne venez absolument pas du jazz, vous dites que c'est même carrément un malentendu, vous êtes un enfant du rock et du rhythm and blues. Pourquoi en fait pas le jazz alors que le public reconnaît ce groove jazzy en vous? C'est que le jazz vous semblait trop cérébral quand vous avez commencé dans la musique?
Ben oui, moi encore une fois, c'est ça, quoi. Je ne suis pas un enfant du jazz, voilà, moi je ne viens pas de là, et que ce n'est pas le jazz pur qui m'a donné envie de chanter, effectivement. Et il y a eu un malentendu, pourquoi? On le sait pourquoi, c'est parce que...
À cause du fameux titre La Boîte de Jazz.
À cause du fameux titre La Boîte de Jazz.
Qui en fait, ce titre raconte une audition qui a bien existé, mais l'échec de cette audition, vous l'avez transformé en une chanson conquérante.
C'est ça, je l'ai transformé en succès, j'en suis assez fier. C'est vrai que j'avais entendu parler, parce que moi je savais faire quelques accords au piano, j'étais pas du tout un pianiste de jazz, quoi. J'étais pas du tout doué pour ça, j'aurais bien voulu, hein. Mais c'est comme ça, quoi. Je me souviens d'un jour, j'avais attendu devant une boîte de jazz Eddie Lewis qui jouait, vous voyez, qui c'est Eddie Lewis, l'organiste, pour lui demander de m'apprendre. J'avais cette naïveté-là. Et je l'ai attendu longtemps. Il est venu, il est arrivé. J'ai dit, monsieur Eddie Lewis, est-ce que vous pouvez m'apprendre à jouer de l'orgue? Il m'a dit, mais comment tu veux que je t'apprenne? Je ne sais même pas comment je fais, moi.
Merveilleux.
C'était génial.
Est-ce que vous êtes retrouvé sur scène avec Eddie Lewis quelques années plus tard?
Non, on s'est retrouvé
une fois. Il ne vous a jamais accompagné?
Non, on s'est retrouvé une fois. Si, non, enfin. En disque, il a joué sur une chanson. Je me souviens très bien de cette séance où il est venu jouer. C'était il y a très longtemps. Et donc, c'est vrai que la boîte de jazz, c'est arrivé. J'ai donc passé une audition dans une boîte où j'avais entendu dire qu'on cherchait un pianiste. Et puis, je me suis fait... Mais c'était logique. Hein. Je me suis fait éjecter, quoi. Gentiment, hein. Parce qu'ils m'ont fait comprendre que, ben non, c'est peut-être pas ça. Et moi, j'ai pas touché une bille, quoi.
Alors, Michel Jonas, bon, c'est une lapalissade. La musique, quand elle est bonne, nous transporte. Elle change l'état de celui qui joue comme de celui qui écoute. Il y a une notion d'euphorie physique que ne procurent pas les autres arts comme la littérature ou la peinture. La musique, c'est donc l'art le plus direct, le plus immédiat.
Ben surtout sur scène, c'est immédiat. Oui, je crois que c'est assez incomparable, hein. C'est quelque chose de effectivement très physique et qui procure une joie instantanée, immédiate, quoi. C'est un moyen extraordinaire de vivre l'intensité, c'est quand même une clé du bonheur, l'intensité du moment présent. Parce que si vous n'êtes pas là, dans cette chanson, si moi je ne suis pas complètement dans les mots que je suis en train de dire, c'est terrible, ça peut être catastrophique. Ça m'est arrivé 2-3 fois et j'ai vite compris la leçon. C'est-à-dire, vous voyez, je suis en train de chanter, puis je me dis combien de kilomètres j'ai à faire de tout à l'heure pour machin, pour aller à l'hôtel et tout. Puis d'un seul coup, je me dis, mais qu'est-ce que je suis en train de raconter? Vous voyez, quand on dit que quelqu'un a de la présence ou pas de la présence, c'est quoi d'avoir de la présence? Ben, c'est d'être là. Si vous n'êtes pas là, vous n'avez pas de présence.
Alors, quels albums avez-vous acheté récemment qui vous ont fait le mieux voyager en vous mettant dans cet état de joie, d'euphorie?
Alors, je ne sais pas. Moi, j'écoute des choses. Je peux pas vous dire quoi. Je ne sais pas. J'écoute comme ça. Mais souvent dans ma voiture. Voilà,
Mais vous consommez beaucoup quand même la musique des autres.
Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais tellement. Des fois, je rachète j'ai racheté il n'y a pas longtemps presque tous les albums des Stevie Wonder que j'adore, quoi. Voilà, il a apporté une pierre très importante à l'édifice musical. Et puis, je réécoute toujours des anciennes chansons, ça c'est vrai. J'ai racheté tout Brassens, j'ai racheté tout Red Charles et les mots, mais ceux qui chantent aujourd'hui, etc. Alors, ça, on me fait entendre, par exemple, quand on est en vacances, alors je reçois mes enfants, voilà, Florian, mon fils, Anna, ma fille, et eux, me font entendre ce que eux écoutent. Alors, c'est toujours des joutes assez intéressantes parce que on joue à ça, on peut jouer à ça toute une soirée. Il me fait entendre un truc, moi je vais lui faire entendre un truc que j'ai entendu, il me fait entendre un truc. Et là, je découvre effectivement des formes musicales vachement intéressantes, même dans le rap, avec des mots qui sont très intéressants. Mais ne me demandez pas de citer des gens parce que je vais être embêté.
Alors, je ne vous le demande pas et je ne veux surtout pas vous embêter.
Non, mais
alors,
vous
Michel
en dire,
Jonas.
Par exemple, M, qui n'est plus un nouveau, moi j'adore M.
Alors, parlons de la scène, qui est votre maison depuis presque 5 décennies. Michel Jonas, on ne monte pas sur une scène à 20 ans comme on monte sur une scène à 72 ans. Quelles étaient vos raisons à 20 ans de grimper sur une scène et quelles sont-elles aujourd'hui? Vous allez nous dire que, bien sûr, aller à la rencontre du public, c'est pour vous essentiel. Mais au-delà, parce que à votre âge aujourd'hui, il y a une responsabilité bien plus forte dans le concept de transmission, Michel.
Bah, de transmission, ce qui change aujourd'hui par rapport à quand j'ai commencé, c'est que maintenant j'ai des enfants et que effectivement on a des discussions qui me font comprendre qu'il y a une responsabilité. Mais faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. C'est-à-dire, les artistes ne sont pas des magiciens, mais ils peuvent évoquer des utopies. Et après, ces utopies-là, elles peuvent peut-être s'incarner. Juste, vous savez, vous vous rappelez ce slogan de mai 68, l'imagination au pouvoir. Quel est le monde dont on rêve pour nos mômes? C'est un monde plus fraternel, un monde plus juste, un monde de paix, de bonheur, où il y a une conscience planétaire, et ça, ça commence vraiment à s'incarner. C'est assez nouveau quand même, hein. J'ai souvent des discussions avec mes enfants par rapport à ça.
Et c'est d'ailleurs l'objet du nouvel album.
C'est tout à fait l'objet du nouvel album, le respect de notre planète mère, qui nous accueille comme ça, si gentiment, et qu'il faut apprendre à préserver. On n'avait pas les cris d'alarme de, à mon époque, moi, qui suis un enfant d'après-guerre, on n'entendait pas tous ces cris d'alarme qu'on entend aujourd'hui. Alors donc, oui, je crois que quand on en a conscience, c'est effectivement la responsabilité de tous les artistes, mais ils le savent, hein, nos moments ils le savent et ils sont tout à fait conscients de ça, et je trouve que c'est ça qui est extraordinaire dans l'époque qu'on vit, parce qu'il y a cette conscience planétaire et surtout cette conscience que les humains c'est une famille, il y a cette famille humaine, et donc l'ennemi c'est quoi? C'est l'égoïsme.
Donc vous parlez moins de vous et plus du monde au travers de vos chansons désormais.
Non, être c'est
une,
moi aussi.
Être une boussole en musique, ça vous plairait bien?
Oui, enfin... J'ai de l'humilité par rapport à ça.
Et pourquoi donc ?
Parce qu'il faut apprendre à être humble et que chaque jour, chaque minute est là pour nous faire grandir et que chaque épreuve est là pour nous faire grandir. Voilà, moi je suis pas... J'ai pas du tout la sensation d'être arrivé à un stade où ça y est, je peux donner des leçons à tout le monde, etc. Pas du tout, moi je suis un élève, quoi. Un élève qui progresse, quoi. Et je suis sur Terre pour, si, pour progresser spirituellement, pour progresser humainement, etc.
Alors, cette année, Michel Jonas, vous avez triomphé sur scène, la scène de la Comédie des Champs-Élysées à Paris en incarnant Albert Einstein, génie absolu des mathématiques, dont la grande peur était de devenir fou d'ailleurs, parce que lui qui incarnait la raison avait un fils qui avait perdu la raison. Donc, Einstein, c'est en fait l'inspiration scientifique par rapport à vous, chanteur, qui en permanence essayez de cueillir l'inspiration artistique. Il y a des connexions entre ces deux formes d'inspiration qui tournent autour de l'instinct. Vous pensez qu'il y a un instinct de la vérité en science comme en art ?
Oh, l'instinct de la vérité, peut-être que quand on croit l'approcher, la vérité, elle peut-être s'éloigner. Les points communs que je vois, c'est qu'ils regardaient certainement le ciel, comme moi, quand j'étais môme, je regardais le ciel aussi, en me disant « Ah, là, il y a des mystères, et on ne m'explique pas tout, et on ne me dit pas tout, c'est intéressant de savoir. » Et je pense qu'une recherche spirituelle que tous les êtres humains ont, hein, eh ben, ça commence là. Ça commence par un questionnement de môme qui se dit « Non, mais c'est extraordinaire, là. Je suis sur une planète, et là, je vois des étoiles, et on m'explique qu'il y a des étoiles qui sont à des milliards d'années-lumière, et qu'il y en a même peut-être que je vois, mais qui sont déjà mortes. » Donc, si vous voulez, vous voyez, je pense que là, ça donne envie de chercher, et c'est peut-être le seul point commun qu'il y a entre les scientifiques et les artistes.
On retrouve tout de suite Michel Jonas.
Europe 1. Son nouvel album a pour titre Le Méouge, le Rhône, la Durance. Et sa tournée française démarre le 6 novembre. Elle va durer un an avec une escale au Palais des Sports de Paris le 25 avril. Michel Jonas est l'invité d'Isabelle Morizet jusqu'à 16h.
Michel Jonas, voilà plus de 18 ans. Vous avez fondé votre propre maison d'édition avec l'envie de développer les thèmes qui vous interpellent, la connaissance de soi, la spiritualité, le développement personnel. Alors une quinzaine d'ouvrages ont vu le jour, choisis bien sûr par vos soins. Et j'aimerais savoir où vous en êtes de cette aventure de l'édition.
Oh, j'ai une toute petite maison d'édition dont s'occupe une femme qui s'appelle Caroline Liborio.
Une petite maison d'édition, oui, mais qui peut publier de grands livres.
Oui, oui, qui peut publier. En fait, c'est bizarre comment ça a commencé. C'est-à-dire, j'étais. Vous savez ce que c'est le channeling ?
Non, dites-nous.
Le channeling, c'est des gens qui reçoivent des messages. C'est-à-dire, ils peuvent écrire des textes, des choses, des livres, mais ils disent que ça ne vient pas d'eux. Voilà, ça descend comme des canaux, si
oui,
vous
comme
les
des
voyez.
Réceptacles.
Voilà, ils reçoivent des choses qui viennent. Alors, quelquefois, il y a des noms. Quelquefois, ça peut être un ange ou une personne. Voyez,
Vous croyez aux anges, Michel Jonas ?
Ah, moi, je crois aux anges, oui, bien sûr. Évidemment, ils existent. Attention, ils existent, les anges. Mais ça, c'est de l'anecdote. C'est-à-dire, ça, c'est du folklore. Moi, ça ne m'intéresse pas. C'est le côté magique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ces textes qu'ils reçoivent. Est-ce que ça vous fait quelque chose ? Est-ce que ça vous transforme ? Et donc, moi, j'ai assisté un jour à ça, à une femme qui recevait des messages. Et c'était très beau. C'était très beau, ce qu'elle nous disait comme ça. Et cette femme m'a dit, j'aimerais bien éditer tous ces textes que je reçois.
Elle ne trouvait pas de maison d'édition, donc vous avez dit, pas de problème,
et
je me lance.
Non, au début, je lui ai dit, je vais t'aider, je vais chercher une maison d'édition pour toi. Et C'était, oui, je me souviens, le texte qu'elle recevait, auquel j'ai assisté, c'était Saint François d'Assise, qui, à travers elle, nous parlait. C'était très particulier, parce qu'il nous parlait avec un langage de l'époque, quoi. Il nous appelait petit frère, petite sœur. Et c'était magnifique. Et donc, j'ai cherché des éditeurs, je ne les ai pas trouvés. Et à ce moment-là, à partir de ce moment-là, j'ai dit, écoute, moi, je vais le faire. Et ça a été le début de la création de ces éditions.
Voilà, aventure donc, qui a démarré il y a 18 ans.
Oui.
Et qui se poursuit.
Oui.
Et la maison d'édition porte votre nom.
Ah oui, oui, tout à fait, oui. On a fait quelques livres, on a fait aussi des jeux.
Des jeux de tarot, je crois, c'est ça ?
Oui, des jeux de tarot avec des illustrations. Voilà, il y a eu l'oracle de l'Inde éternelle, dont les dessins ont été faits par ma fille, Anna. Donc voilà, mais vraiment, on n'a pas beaucoup de, vous voyez, pas beaucoup de livres.
Mais alors, vous venez d'évoquer l'Inde. Il fut un temps où vous alliez régulièrement en Inde. Moins aujourd'hui ?
Un peu par la force des choses. Vous voyez, j'ai même quelquefois du mal. Mon fils habite à Toulouse, j'ai un petit-fils. J'ai même du mal quelquefois à trouver 3 jours pour descendre, pour les voir. Donc avant, effectivement, il y avait ce système où il y avait un disque, il y avait une tournée, et puis stop, hein, laissez-moi tranquille, parce que je pense que pour écrire, il faut effectivement, pour être inspiré, il faut se remplir de rencontres, de voyages, de paysages, de nouvelles personnes, de nouvelles façons de vivre d'autres gens, etc., d'autres paysages. Et c'est ce que je faisais. Je ne peux plus le faire, c'est là où je voulais en venir, c'est que si je ne peux plus le faire aujourd'hui, je le ferai aujourd'hui, mais je ne peux plus le faire. J'ai pu comme ça, parce que paradoxalement, j'ai beaucoup plus de concerts aujourd'hui à 72 ans que quand j'en avais 30 ou 40 ou 50. Parce que, je vous dis, c'était le système où il y avait des longues périodes d'abstinence. On ne le fait plus, pour plusieurs raisons. Pour des raisons effectivement économiques, puisque vous le savez, aujourd'hui, les disques se vendent moins. Attention, hein, je ne me monte pas sur scène par devoir. Hein, je ne peux pas faire ça.
On entend bien. Alors justement, la tournée que vous démarrez avec ce nouvel album baptisé La Méouge, le Rhône, la Durance, va couvrir les 12 prochains mois. Je le rappelle, elle s'arrête le 25 avril 2020 au Palais des Sports à Paris. Vous partez sur les routes de France avec vos frères de groove,
oui,
et dames, Jean-Yves D'Angelo, Manu Katché,
oui,
qui ont réalisé ce nouvel album. J'imagine que vous avez hâte. En fait, la vie n'est jamais aussi intense que sur et autour d'une scène.
Bah, c'est génial le lien qui nous unit avec Jean-Yves et Manu. Donc avec Jean-Yves, on fait un piano-voix depuis 7 ans. On avait envie de retrouver Manu, parce que Manu,
le batteur magique,
après Univers Luni de 85 au Palais des Sports, on avait commencé en 80, 81 ensemble, et on s'était perdu de vue avec Manu, parce que il a eu la carrière que vous connaissez, de jouer avec Sting, avec Peter Gabriel, etc.
Ouais.
Et on avait vraiment envie de le retrouver, et lui aussi avait envie. Donc on a décidé de faire un quartet avec Jérôme Regard à la contrebasse, Jean-Yves, Manu et moi. Et ça, on le fait depuis 4 ans. Et puis, évidemment, comme on a envie de continuer, ben, c'était tout à fait naturel que je leur demande de réaliser, d'arranger les chansons pour le nouvel album. Et c'est ce qui
se passe. Mais c'est quand même assez rare que les musiciens qui ont réalisé l'album d'un chanteur fasse avec lui la tournée. Ça devient de plus en plus rare. Est-ce qu'ils seront tous les quatre autour de vous sur la scène du Palais des Sports,
tout
ou bien ce sera un orchestre élargi ?
Ils seront là avec un guitariste en plus, Hervé Bro, et une section de cuivre, bien sûr.
Section de cuivre, tout de même.
Michel Gaucher, Pierre D'Angelo, le frère de Jean-Yves, et puis Éric Mulat, la trompette. Oui. Bah non, mais ça va être bien, il faut venir.
Oh
hein.
Là là, Palais des Sports, 25 avril, ça va être intense. Allez, on fait une pause, on retrouve tout de suite Michel Jonas.
Europe 1. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. La suite est fin sur Europe 1 avec Isabelle Morizet.
C'est en compagnie de Michel Jonas qu'on voyage cet après-midi. Puis tout à l'heure, j'annonce donc le nouvel album intitulé La Méouge, le Rhône, la Durance. Mais avouez, Michel, que c'est un titre assez inattendu pour un album, n'est-ce pas ? Il y a une petite musique assez curieuse.
Oui, mais je ne sais pas si vous avez remarqué que les mots portent en eux-mêmes une musique qui ressemble à ce qu'ils désignent. Par exemple, le mot groove, groove tout seul. Le mot swing, ça swing. Vous voyez, et la Méouge, le Rhône, la Durance, vous voyez, ça coule.
Oui, c'est par vague.
C'est par vague.
Il y a une musicalité de vague.
Exactement.
Bon, alors, pas de véritable star sans un astéroïde à son nom. C'est le cas de Michel Polnareff, dont le nom a été choisi pour baptiser un astéroïde découvert en 2002. Et c'est votre cas Michel Jonas, puisque des astronomes français ont décidé de donner votre nom à un astéroïde, après bien sûr que le comité de nomenclature l'accepte, parce qu'il faut ça. Alors, vous êtes en très bonne compagnie, car j'ai appris que ces astronomes français avaient déjà baptisé des astéroïdes du nom de Brassens, Pink Floyd, Peter Gabriel, Kate Bush et Rolling Stones. Comment vous ont-ils averti ?
Ben, c'était un de ceux qui regardent, vous voyez, dans les... Télescope, qui était fan de mes chansons, qui me disait qu'il écoutait beaucoup mes chansons et qui a proposé ça. Je ne sais pas si c'est une astéroïde ou une exoplanète.
Oui, c'est à vérifier.
Et donc c'était tout un truc, parce qu'il faut que c'est aux États-Unis, il faut qu'ils acceptent, etc. Et donc il me l'a annoncé, j'étais vachement fier. Quoi.
Ah
ouais, non, mais vous rendez compte. Alors je me suis dit, bon, alors voilà, j'ai une rose qui porte mon nom, j'ai une rue à Saint-Le-Noble qui porte mon nom.
Et
maintenant une exoplanète. Qu'est-ce qui me manque ?
Michel Jonas, ils vous ont invité à la regarder justement, cette exoplanète,
non.
Depuis l'observatoire de Cossol.
Non, c'est vrai, vous avez raison, je ne l'ai jamais vue.
Bah, il faut leur demander.
Oui, bah, je vais leur demander.
Bon, parfait. Alors, on observe tranquillement les étoiles et les astéroïdes depuis notre planète, sans imaginer à quel point elle va mal. Cette planète bleue, couverte à 70% d'eau, la seule planète viable connue pour l'instant. Vous avez signé une pétition il y a quelques temps, en Une du Monde, pour déclencher l'urgence d'une prise de conscience écologique. Et il faut dire aussi que l'urgence de cette prise de conscience est fait l'objet en fait, du dernier album. Vous voyez le désastre arriver ou bien vous êtes confiant ?
Ah oui, moi je suis confiant, et puis de toute façon je suis de nature toujours optimiste, et je trouve que la peur est mauvaise conseillère, et qu'en plus, la peur peut créer, et peut faire que les choses arrivent. Donc, moi je suis de nature optimiste, et surtout, je vois tellement de bonne volonté autour de moi. Il y a des associations, il y a des villages écolos, il y a les gens qui maintenant font vraiment attention à leur mode de vie, changent leur façon de se nourrir, font attention à ce qu'ils achètent. Et maintenant, il y a vraiment cette conscience-là qu'il faut faire attention et qu'il faut changer, et parce que ça devient vital. Voilà.
Michel Jonas, je vais me faire l'avocate du diable, parce que bien évidemment que je suis à 101% d'accord avec l'urgence de cette conscience écologique, mais pendant qu'on nous demande des efforts totalement justifiés, la Chine est en train d'appliquer son programme de construction de 200 aéroports géants, les plus grands au monde, dans les 15 ans qui viennent, soit 13 aéroports géants chaque année. Alors quand on sait que ce sont les gaz à effet de serre qui dérèglent le climat, cette politique décrétée par la Chine comme un symbole de puissance, c'est juste au nom de sa grandeur, cette politique est une catastrophe. Et Greta Thunberg n'ira jamais rencontrer le président chinois, parce que jamais Xi Jinping ne la recevra.
Ils l'accepteront pas.
Donc...
Oui, mais vous vous rappelez de cette formule qui était dans les années 70, je crois. Penser globalement, agir localement. Donc, si vous ne faites rien parce que vous vous dites « Oh, ben, de toute façon, ça ne sert à rien parce que vous avez vu ce que font les Américains, ils s'en foutent complètement, Trump, ils s'en foutent complètement, les Chinois, ils font de la folie. » On ne peut pas agir comme ça. Il faut juste l'histoire du petit colibri qui porte sa petite goutte d'eau dans son bec pour éteindre un grand incendie. Il faut faire, là, voilà, vous fermez le robinet quand vous vous lavez les dents, vous prenez plutôt des douches que des bains, vous essayez d'acheter d'alimentation locale et puis bio, parce que ça aussi, c'est des autres problèmes. C'est-à-dire qu'on n'encourage pas vraiment. Moi, je comprends les paysans qui manifestent, vous voyez, ils manifestent, mais ils ont des raisons, quoi. Moi, je suis sûr que tout le monde serait d'accord pour faire du bio, mais il faut les aider par rapport à ça. Donc, là, ce que vous dites, vous avez raison, mais en même temps, si on tient compte de ça, non, c'est pas ça. Fais ce que tu peux faire là où tu es, ça suffit, voilà. Tu fais ta petite tâche, ta petite mission. Greta, elle fait ça magnifiquement. Je comprends d'ailleurs pas, il y a eu des trucs là-dessus où des gens disent, oh non, mais qui pouvaient critiquer cette jeune fille, que moi je trouve ça génial.
C'est pas du tout une critique de ma part, mais vous avez entendu, voilà, dans ma question,
oui,
la réalité de l'autre côté d'ailleurs de notre planète bleue.
Oui, exactement, il y a ça aussi, justement, alors, raison de plus de se battre.
Michel Jonas, dans quel coin du monde vous verriez-vous bien vivre le dernier chapitre de votre vie le plus tard possible ? Ce sera en France, ce serait au bord de l'océan, ce serait au bord de la Méouge.
Moi, je suis bien où je suis dans une banlieue parisienne, dans le 94, je vois la Marne qui coule, j'ai pas trop envie de bouger, par contre si, non c'est pas vrai ce que je dis, je ne veux pas quitter cette racine-là, mais oui, si j'avais moins de concerts, moins de travail, etc., oui, j'aurais vraiment envie de voyager, puis d'aller aller en Israël, aller partout, voilà.
Cet album, La Méo, Jules Rhône, La Durance, c'est un long poème d'amour inspiré par le miracle de la vie et la préciosité de la nature sur cette terre qui ne nous appartient pas. Alors la tournée démarre le 6 novembre à Courbevoie, elle passe le 22 novembre à Annecy, le 23 novembre à Lyon, le 29 à Caen. Il y a tout l'Hexagone qui va être vraiment sillonné pendant un an. Et vous, Michel, avec votre dream team de musiciens, dont Jean-Yves Angelo et Manu Katché, derrière sa batterie magique, eh bien vous allez sillonner la France donc, en vous arrêtant au Palais des Sports à Paris le 25 avril prochain. Programme magnifique et chargé.
Ben oui, mais c'est ma vie et c'est ma joie d'être. Voilà, ça fait partie de ce que j'aime faire. Pour l'instant, j'ai ça. Je dis pour l'instant parce que moi je sais que je me suis toujours programmé pour avoir cette... On en a parlé beaucoup hein, lors de cet entretien, de cet enthousiasme absolument nécessaire. Moi je chante toujours avec le même plaisir, bêtement physique, hein, toujours avec le même plaisir. J'ai toujours le même plaisir d'écrire et de composer. Et surtout, c'est vrai, cette chose exceptionnelle de partager la musique avec des amis, quoi, ce lien subtil qui est entre nous. C'est extraordinaire parce que s'il n'y avait pas ça, on pourrait... On pourrait faire de la musique ensemble.
Mais ça fait 5 décennies qu'on s'aime,
mais voilà,
n'est-ce pas ?
Exactement. Et voilà. Puis il manquerait quelque chose hein, s'il n'y avait pas ça. C'est comme dans un couple. Hein. On peut rester ensemble dans un couple, mais s'il n'y a pas cette flamme, cette passion et ce lien subtil, ben, il y a quelque chose qui ne va pas.
Alors on sera branchés sur cette joie. Merci infiniment.
Merci
Michel
à vous.
Jonas. À bientôt.
À bientôt.
C'était Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Une conversation triangulaire demain en compagnie d'Isabelle Morizet et de deux acteurs qui sont aussi auteurs, scénaristes, metteurs en scène. C'est Arthur Juniau et Patrick Braoudet. Nous parlerons de la nouvelle comédie de Clément Michel, Père ou Fils, à voir au Théâtre de la Renaissance à Paris. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1 à suivre L'équipe est sauvage de Mathieu Noël.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h sur Europe 1.